Et c'est parti. Alors, par contre, je vais avoir besoin que vous m'aidiez pour savoir de quoi a parlé Laura Cherki. Je ne pense pas que je vais dire la même chose parce que c'est un autre kivoun qu'on va prendre complètement, mais quand même, histoire d'être sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi le cours du Rav Cherki tout à l'heure et qui peut nous dire de quoi il a parlé?
Alors, c'était très dense, si je peux me permettre. C'est-à-dire, en 2 minutes, c'est un peu compliqué de résumer, mais on a commencé avec Etzer Haim,
Ok.
Etzer Dat,
Ok,
Tavara,
ok,
de la notion des fruits, de faire le
ok.
lien. Ensuite, on est parti après, on a fait un lien même avec Amalek. Et on est passé par les vinasses au milieu. Donc, c'était vraiment
D'accord.
très, très, très large. Et le lien qu'il y a entre, en fait, la Nissan, Adar, les 15, 15, 15, et donc de voir quand est-ce qu'on fait le, quand est-ce qu'on commence la Géoula en réalité, est-ce que c'est à
D'accord.
minuit ou est-ce que c'est le matin? On
D'accord.
va dire
Très bien.
sur un pied.
Très
Et
bien, ça me
Félicia,
va.
j'ai rien oublié.
Quand la cavote les a carrés, quelle mémoire!
Quelle
Il a
mémoire
tout écrit, il a
extraordinaire.
tout
Top.
enregistré.
Ah, pardon. Oups. Désolé.
Top. Alors, ben, c'est-à-dire, le contrôle surprise, t'as vu? Alors, les amis, nous allons parler également donc de Tu Bishvat, mais on va essayer d'aborder Tu Bishvat d'une autre façon, puisque nous, notre cours, c'est l'histoire de la Kabbalah. Et donc, nous, on va parler du côté plus historique de la fête de Tu Bishvat, et ensuite, on arrivera peut-être à parler un tout petit peu de ce que, justement, les Mekoubalim nous ont laissé de cette fête-là. Alors, quand on parle de la fête de Tu Bishvat, d'abord, on va se rappeler une chose, c'est que ce n'est pas une fête. D'accord? C'est important de le souligner. Celui qui décidera jeudi, mercredi soir, jeudi, de ne pas manger de fruits, bah c'est dommage pour lui, mais il ne transgresse rien. Donc il n'y a pas une halakha, une mitzvah de manger des fruits à Tu Bishvat. Celui qui ne lira pas la Megillah à Purim, eh bien il transgresse la mitzvah des Rabbanan. Celui qui ne mangera pas de matzah le soir de Pessah, il transgresse une mitzvah de Oraïta de Pessah. Donc, lorsqu'une fête est décrétée par la Torah, eh bien, on est tenu obligé de la faire. Lorsqu'elle est décrétée par les rabbins, on est tenu obligé de la faire. Mais lorsqu'il y a un minhag qui se développe dans le peuple juif, ça ne rend pas le minhag obligatoire. Tant que les chachamim n'ont pas dit Ine ze achshav mitzvah de Rabbanan, alors zélo. Prenez par exemple la fête de Yom HaAtzmaout. Certes, avant le 14 mai 1948, eh bien il y avait des gens qui fêtaient déjà le 5 Iyar. Et le Gaon de Vilna avait dit que c'était un jour très important de Géoula. Mais tant qu'il n'y a pas eu un événement historique qui a touché le peuple juif, eh bien, ce n'est pas une fête officielle. Lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël, les Chachamim, le Rav Herzog, le Rav Uziel, la Rabbanout HaRashit d'Israël, eh bien, ont décrété que c'était une fête. C'est vrai que le Rav Kook fêtait déjà le 28 Iyar, le jour de son aliyah personnel, mais ce n'était pas encore Yom Yerushalayim. Donc, il en va de même pour Tu Bishvat. Pour l'instant, ce n'est pas encore une fête officielle. Ça le deviendra, sans aucun doute. Parce que les minhagim du peuple juif révèlent une réalité. Et donc, si pour l'instant, c'est une itoreruta diltata, un réveil d'en bas, eh bien, c'est évident que ça deviendra également un réveil d'en haut. Donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on peut revenir à l'origine. Quelle est la première fois où on va nous parler de Tu Bishvat? Eh bien, la première fois, c'est-à-dire qu'on peut vérifier, quoi. La première fois où on nous parle de Tu Bishvat, c'est dans la Mishnah. Dans la Mishnah, lorsqu'on nous parle de Tu Bishvat, eh bien, vous connaissez d'ailleurs cette Mishnah, elle est très très connue. On va nous expliquer qu'il y a Arba Rashe Shanim. Arba Rashe Shanim Hem. Donc, on est dans la Mishnah, dans Maseret Rosh Hashanah. Eh bien, on va nous expliquer qu'il y a quatre différents Rosh Hashanah dans l'histoire, dans l'année. Et on va nous finir, on va dire d'abord Be'echad Be'Nissan, Be'echad Be'Elul, Be'echad Be'Tishrei, Et enfin, Be'echad Bishvat, Rosh Hashanah Laïlan, que divré Bet Shamay, Ver Bet Hillel, Omrim Be'chamisha Asar Bo. Et la halakha sera mise en place comme Bet Hillel. En d'autres termes, eh bien, nous avons un premier plan au niveau historique qui nous dit que Tu Bishvat, eh bien, c'est le moment où c'est Rosh Hashanah Laïlan. Qu'est-ce que ça veut dire halakhiquement parlant? Ce n'est pas un jour de fête, c'est juste que ça devient le jour où tu commences à compter les années de l'arbre. C'est-à-dire que lorsque tu as planté un arbre, disons que tu as planté un arbre, je ne sais pas moi, au mois d'août, d'accord? Eh bien, lorsqu'arrive le premier Shvat d'après Beit Shammai, et le 15 Shvat, c'est la halakha d'après Beit Hillel, eh bien, le 15 Shvat, ton arbre, il aura un an. Et le 15 Shvat suivant, il aura 2 ans. Et le 15 Shvat suivant, il aura 3 ans et il ne sera plus Orla. Une quatrième année pour être Neta Revaïe, et ensuite, dans la cinquième année, tu pourras manger ses fruits. Donc, la première dimension de Tu Bishvat, eh bien, c'est une dimension purement technico-halachique de savoir quel âge a l'arbre. Ensuite, on va faire référence à Rabbi Akiva, le Rav Cherki vous a certainement parlé quand il a parlé de Etz Hadat, Etz Hachaim, Etrog. Eh bien, on va nous expliquer que Rabbi Akiva, Oya loket etrog be echad beshvat, venaag boshne isurin, echad kedivre bet shamay, ve echad kedivre bet hilel. Rabbi Yossi bar Yehuda omer, lo minag bet shamay u bet hilel naag ba, ela minag rabban gamliel, ve rabbi Eliezer gam naag ba. Bekitsur, on a ici une autre information qui nous dit que Rabbi Akiva, donc on est toujours à l'époque des Tanaïm de la Mishnah, eh bien lui aussi, il symbolisait Tu Bishvat de manière très importante, puisque, eh bien, il mangeait le fameux fruit du Etz HaTraïm ve Etz HaDa'at, le Etrog, à Tu Bishvat. Donc ça, c'est la première fois au niveau historique qu'on va nous parler de Tu Bishvat. La deuxième fois qu'on nous parle de Tu Bishvat, Rabotai, c'est quand? Eh bien, c'est dans le Talmud de Jérusalem. Le Talmud à Yerushalmi, eh bien, on va nous expliquer là-bas, toujours dans le traité de Rosh Hashanah, que à Tu Bishvat, il se passe un événement invisible à l'œil nu, mais qui a quand même lieu dans la résurrection de l'arbre. C'est quoi? Eh bien, c'est que la sève remonte dans les arbres. C'est à partir de ce moment-là que la sève, donc le début de la résurrection de l'arbre, commence à Tu Bishvat. Également, on va nous dire que à Tu Bishvat, c'est le moment où l'arbre puise des eaux qui sont tombées cette année, alors qu'avant, il continuait à puiser de l'eau qui a été tombée l'année précédente. D'accord ? Donc, Tu Bishvat, c'est le début du chidouche de la vie de l'arbre, bien que cela ne soit pas visible. D'accord ? Donc, il s'agit des deux dimensions halachiques de Tu Bishvat. La première, l'âge de l'arbre, et ensuite, de savoir à partir de quand le processus biologique de l'arbre recommence. OK. Voilà pour ce qui est des premiers iskourim au niveau halachique. Ceci étant, je pense que le Rav Cherki vous l'a peut-être déjà dit tout à l'heure, alors que, évidemment, il vous a expliqué qu'en Nissan, c'est véritablement le printemps, alors qu'en Nissan, les arbres sont en fleurs, il y a quand même un arbre qui est en fleurs à Tu Bishvat. Vous en avez parlé avec le Rav Cherki? Non. Mais vous le savez parce que vous avez des enfants et des petits-enfants au Gan. Et donc, vous savez que Ashkedia Porachat Veshemesh Lazorachat, n'est-ce pas ? Ashkedia Porachat. Ah ! Donc, si l'Ashkedia Porachat à Tu Bishvat, eh bien, ça veut dire qu'il y a une relation très forte entre Tu Bishvat et l'amandier. Où est-ce qu'on peut voir cela ? Eh bien, on peut voir cela avant la Mishnah, avant le Talmud de Jérusalem. Déjà dans le Tanar. Dans le Tanar, eh bien, dans le livre de Jérémie, lorsque Yirmiyahu Dieu l'appelle et lui dit « Ma'ata ro'e » Qu'est-ce que tu vois ? Donc Dieu lui donne une névoie. C'est-à-dire, bon, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière. C'est-à-dire, il lui dit « Ma'ata ro'e » Réponse du prophète. Qu'est-ce qu'il répond ? Ben, il répond « Ma'kel shaked ani ro'e » Nous sommes dans le chapitre 1 du livre de Jérémie, au verset 11. Nous dit Vaï devar Hashem Elai les morts, ma taroué, Yirmiyahu va omar, makel shaked ani roé. Je vois un bâton d'amandier. Maintenant, attention, deux secondes. Si Dieu lui a montré un bâton avec les fleurs d'amandier dessus, ben ça n'a rien d'extraordinaire de voir qu'il s'agit d'un amandier. Vous conviendrez. Il suffit d'avoir étudié un tout petit peu les arbres, de regarder un petit peu les fleurs, et tu sais reconnaître une fleur d'amandier ou pas. Rien que pour la beauté de la floraison blanche, rosée, de l'amandier, ça vaut le coup d'en planter. Mais tout à fait. Mais le problème que j'ai, c'est que lorsque Yirmiyahu a dit « Makel shaked ani roé », Dieu répond « Vayomer Hashem elai et tav talirot ». Mazel tav talirot. Bien joué, tu as bien vu. Encore une fois, si Dieu lui a montré un amandier en fleurs, ben ce n'est pas compliqué de voir. Donc, ça veut dire quoi ? Et tafta lirot, tu as bien vu. Eh bien, en fait, c'est parce que le bâton qui a été montré à Yirmiyahu n'était pas avec des fleurs. Et il a été capable de voir qu'il s'agissait quand même d'un bâton d'amandier. Et donc, on lui dit, tafta lirot, lama, qui choquait Dani al-Devari la soto. Et c'est la névoie où Dieu parle de la Géoula et il dit à Yirmiyahu parce que je m'empresse de la mener. En d'autres termes, la Shkedia nous parle d'une Géoula et il faut être capable de la voir. Et Taf Talirot, ce n'est pas donné à tout le monde de voir que l'amandier nous donne le signe de la Géoula. Parce que le Rav Cherki vous a expliqué que pendant la nuit, eh ben, comment est-ce qu'on peut voir la Géoula, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on peut remédier à cela, reconnecter à ça. D'ailleurs, c'est ce que va dire, en l'occurrence, Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, que la névoie de Jérémie de l'amandier a eu lieu à Toubishvat. Donc, nous avons notre premier véritable iskour dans le Tanakh, Sefer Yirmiyahu, ensuite la Mishnah, et ensuite le Talmud à Yerushalmi. Et ensuite, la Gemara du Talmud Bavli qui raconte l'histoire de Rabbi Akiva qui s'est passée à l'époque de la Mishnah. Ok. Donc, pour l'instant, notre Toubishvat est bien ancré. Mais ce n'est pas encore ancré comme étant une fête. Soit le bâton d'Aaron a fleuri aussi en amandier. Nachon, Nachon Meod. Ze Nachon Meod. Mais je n'ai pas vu de commentateurs qui disaient que c'était à Toubishvat que ça s'est passé. Yecholiot. Yecholiot, mais je n'ai pas vu. Quoi qu'il en soit, donc ça veut dire que nous avons déjà une base très claire sur Toubishvat, mais personne n'en parle comme étant une fête. Personne n'en parle comme étant un moment de simcha. Et pour arriver à Toubishvat en mode Yom Simcha, eh bien, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Et il va falloir arriver jusqu'à l'époque des Géonim. Et encore, non, en vrai, c'est à la fin de l'époque, on va arriver jusqu'à l'époque des tout premiers Rishonim. Ok, c'est là-bas qu'on va commencer à parler de Toubishvat. On va commencer à parler de Toubishvat lorsqu'il va y avoir, eh bien, le piyut mis en place par Rabbi Yehuda Levi Berabbi Hillel, qui va nous écrire un piyout ode Rosh Hashanah Laïlan. Donc ça va être la première fois où on va entendre parler de cette réalité que Toubishvat est un jour important. Mais si on veut véritablement voir les premiers qui vont faire de ce jour-là, pas seulement un jour où on écrit une ode à Toubishvat, mais on va en faire quelque chose sérieusement, eh bien, il va falloir arriver à ce qu'on appelle Chassidé Ashkenaz. chassidés ashkénazes du XIe et du XIIe siècle vont être les premiers à écrire concrètement, eh bien, qu'il y a une fête à Tou Bichvat. En vérité, quand on parle de cette réalité-là, eh bien, il y a d'un côté les chassidés ashkénazes, mais il y a également à Kérouan, Rabbi Nissim Gaon, donc Rabbeinu Nissim, qui va lui aussi écrire dans ses textes que Tou Bichvat est l'une des fêtes. Donc on parle du tout début de la période des Rishonim, fin des Savoraïm, début des Rishonim, où on va avoir les premiers qui vont marquer le coup et dire que Tou Bichvat est un jour de fête. À tel point que cette Shuva qui va être amenée à cette époque-là pour dire de Tou Bichvat que c'est une jour important, eh bien cette Shuva va être ramenée dans le Bet Yosef et également dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que même le Shulchan Aruch va nous dire qu'on n'a pas le droit de faire de jeûne à Tou Bichvat. Ça fait partie des journées où on n'a pas le droit de jeûner. Ce n'est pas encore un jour où on fait quelque chose, mais c'est un jour où on n'a pas le droit de faire quelque chose. Donc on voit que bah déjà depuis 1000 ans, les Chachamim se sont dit « Tou Bichvat est une journée très importante, on n'a pas le droit de jeûner. » Mais alors, est-ce que ça suffit de ne pas dire « Tachanoun » et de ne pas jeûner ? Oui, parce que au XIIe siècle, on va rajouter au fait qu'on n'a pas le droit de jeûner, eh bien, on va rajouter chez Rabbi Yehuda Hassid et ensuite chez le Maharam de Rothenburg qu'on n'a pas le droit de dire Tachanoun à Tou Bichvat. OK ? Donc, c'est déjà, non seulement on n'a pas le droit de jeûner, mais on va dire qu'on ne jeûne pas tous les jours a priori, c'est seulement s'il y a une raison, alors on ne jeûne pas. Enfin, on jeûne ou on ne jeûne pas, alors que Tachanoun, on dit tous les jours. Donc là, lorsque le Maharam de Rothenburg nous dit « On ne dira pas Tachanoun à Tou Bichvat », eh bien, il s'agit d'une autre prise de position pour montrer l'importance de cette journée-là, mais c'est encore passif. Et on ne fait pas ça. Mais on ne va pas être encore active. Nous dit, par contre, le Maharil. אז המעריל, רבי יעקב הלוי בן משה מולין, qui était un des grands, grands personnages de רבנות, de רבני אשכנז, à Magensa, eh bien, lui, il nous écrit la chose suivante. שבט הוא מלך, משום שחמישה עשר בו, הוא ראש השנה לאילנות, ובחמישה עשר בו, אין אומרים תחנון בשחרית. Donc, lui, il te dit, en plus de ça, c'est Yom Melech. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on doit bien faire dans cette journée-là qui est une journée importante ? Eh bien, les amis, les premiers qui vont avoir, qui vont faire de Tou Bichvat un jour actif, eh bien, il va falloir qu'on attende de ce qu'on en sait. Il va falloir qu'on a, parce que peut-être qu'il y a d'autres gens qui faisaient ça ailleurs, mais on ne le sait pas. Il va falloir attendre la Tkoufa où Chachmei HaKabbala deviennent principaux, c'est-à-dire la Tkoufa du Hari et de Gouret à Hari, des élèves du Harizal. Et là-bas, eh bien, il va se passer quelque chose. Eh oui, de quoi parle-t-on ? Si on veut revenir au niveau de ce qu'il faut faire, avant de parler du Seder Shalem des Mekoubalim, le Seder, avant les Mekoubalim, il faut se rappeler que déjà, il n'y a pas de Massoret écrite, mais nous dit Rabbi Chaim Palachi, on a déjà évoqué dans notre cours, que les chassidés ashkénazes, ils avaient l'habitude déjà, alors on a dit de ne pas faire tachanoun, de ne pas jeûner, mais ils avaient également l'habitude de manger miné pirot, perot à ilan, לכבוד שמו של היום. אה, אוקיי. Donc, ce n'est pas marqué chez eux, mais on nous rapporte de eux que c'est ce qu'ils faisaient. Tor, Beseder, mais en vérité, comme on a dit, il va falloir attendre les Gourei Ahari, les élèves du Harizal, pour faire véritablement de Tu Bishvat quelque chose d'énorme. Donc, ça nous amène à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, où là, eh bien, on va faire de Tu Bishvat une fête absolument incroyable, avec un seder, avec des tfilotes, avec un nombre de fruits à manger. Il va y avoir également, à un moment donné, une tfila qui va devenir extrêmement populaire dans le monde des chassidim et mekoubalim, qui s'appelle la tfila qui est marquée dans le livre Pri et Sadar, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ce Sefer Pri et Sadar, ou alors le Sefer Semdat Yamim qui amène cette tfila-là, certains veulent voir comme étant le Mechaber, l'écrivain de ce livre, on avait déjà parlé, voit ce livre comme étant écrit par Nathan Ahazati, celui qui était le maître de Shabtai Tzvi. Et donc, il y a certains qui disent, il ne faut pas dire cette fila-là, mais d'un autre côté, les Mekoubalim disent cette fila-là, donc ce n'est pas clair. OK ? Quoi qu'il en soit, alors, qui sont-ils les... Attendez, voilà. Qui sont-ils les sages de Ashkenaz ? Ah, j'ai dit, il y a par exemple leur chef de file, on en a parlé il y a moult, parce que c'était au XIIe siècle, là maintenant on est arrivé presque au XXe, ça y est. Donc non, mais il y avait ce qu'on appelait les chassidés Ashkenaz, ils étaient guidés par un homme qui s'appelait Rabbi Yehuda Achassid. OK ? Pourquoi le jour du jugement des arbres est à Shavuot si le nouvel an des arbres est dans Shvat ? Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Le jour du jugement n'est pas forcément le jour de la naissance. Regardez par exemple, nous, Béné à Adam, notre Rosh Hashanah à nous, c'est en Nissan, et pourtant notre jour du jugement, c'est en Tishrei. Donc il n'y a pas de problème. OK. Donc ça nous amène, on a dit, au 16e, 17e siècle, avec les élèves du Harizal. Et c'est là qu'on va mettre en place un seder. Alors, quel est ce seder, les amis, de Tu Bishvat ? Encore une fois, je rappelle que celui qui veut manger un fruit, c'est bien. Celui qui veut en manger 10, c'est bien. 15, c'est bien. Celui qui veut, comme tu veux. Mais si on va selon le seder des Mekoubalim, alors on va manger 40 sortes de fruits. Et en plus de ça, on boira 4 coupes de vin. Et évidemment, ce n'est pas sans nous rappeler le seder de Pessah. Et c'est tout à fait volontaire. Maintenant, attention, ces 4 coupes de vin ne sont pas tout le temps les mêmes. Car on commencera avec du vin blanc pour enchaîner une deuxième coupe sur du vin blanc majoritairement avec un peu de rouge. Oui, les puristes se sont déjà évanouis. Ensuite, dans la troisième coupe, on prendra une majorité de vin rouge avec un peu de blanc. Et enfin, on terminera la quatrième coupe avec que du vin rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, à part le fait qu'au bout de 4 coupes, la personne est bourrée et elle ne se rend plus compte de la couleur du vin ? C'est possible, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le blanc, c'est midat ha chesed. Le rouge, c'est midat ha din. Il est beaucoup plus facile de dévoiler la Kedusha au niveau du Chesed que de dévoiler la Kedusha au niveau du Din. Et donc, on a besoin de Itromemut, on a besoin de grandir Léat Léat pour pouvoir arriver à intégrer Midat Adin. Donc, ça va être d'abord du blanc, Ensuite, du blanc avec un petit peu de rouge. Ensuite, du rouge avec quand même un peu de blanc pour la petite kétadinine, pour adoucir un peu la rigueur. Et enfin, on sera capable d'élever toutes les dynimes avec que du rouge. On mangera d'abord les 7 fruits d'Eretz Israël. Mais attention, là aussi, on les mangera dans un certain ordre. Puisque cette fête est la fête de la Géoula, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, parce que Choquet Daniel Devarila Asoto, et aussi parce que le retour des fruits en terre d'Israël est le signe de la Géoula. Comme le dit la Guémara dans le traité de Sanhédrin à la page 98, que le signe le plus évident de la Géoula, à tel point que nous dit Rabbi Abba, En lecha ketz meule mise, c'est quoi? C'est que Eretz Israël noten perotea be'ayin yafa. Lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits en abondance, eh bien, c'est le signe de la Géoula. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fruits par lesquels Dieu a loué les mérites de la terre d'Israël, eh bien, plus le fruit est proche du mot Eretz de Eretz Israël, plus il est valeureux. Et donc, c'est dans cet ordre-là qu'on va les manger. Il y a 2 versets dans la Torah. L'un dit Eretz Rita Useora Gefen Tena Verimon. Il y a un autre verset qui dit Eretz Zeit Shemen Udevash. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est à chaque fois ce qui est le plus proche du mot Eretz, et c'est ça qui détermine. Donc, nous allons tout d'abord manger, mais je vais vous dire, quels sont les fruits? Je vais vous dire. Donc, quel sens y a-t-il à manger des fruits à l'étranger ne venant pas d'Israël? Attendez, là on parle de l'idéal, après on parlera de la réalité. Donc, on commencera par manger Rita. Rita, parce qu'il y a marqué Eretz, Rita. Donc, eh bien, on mangera des gâteaux. Comme ça, on pourra faire la bracha de Maisonot. Ensuite, on mangera des olives. Pourquoi des olives? Eh bien, parce que dans l'autre verset, le mot le plus proche de Eretz, c'est Zait, Eretz, Zait Shemen. Donc, Rita, on fera Maisonot, des olives, on fera Boré Périaët. Ensuite, eh bien, nous avons le deuxième mot du premier verset, Seora. Alors, Seora, de l'orge, certains prendront de l'orge qu'ils ont fait cuire, olive en bocal, olive ce que tu veux, bah, chacun selon ses goûts. Après, donc, pour l'orge, certains prendront de l'orge qu'ils ont fait cuire. Et donc, à ce moment-là, on fera la bracha de Boré Péria à Adama. Ou alors, certains prendront de la bière. Et à ce moment-là, on fera Sheakol Nia Bidvaro. C'est-à-dire, mais si on fait Sheakol Nia Bidvaro, alors il faut penser à ce moment-là de ne pas vouloir être acquitté de ce qui pourrait être Boré Péria à Adama, pour que tu puisses faire la bracha après. Mais si jamais tu as fait la bracha de Sheakol et tu t'es acquitté, ce n'est pas très grave. Ensuite, on revient au deuxième mot qui est proche du mot Eretz, mais dans le deuxième verset, c'est Dvash. Et là, pour le coup, c'est Dvash Tmarim. Ce n'est pas le Dvash des abeilles. Des fois, c'est le Dvash des abeilles. Quand il y a marqué Eretz, Zavat, Chalav ou Dvash, c'est le Dvash des abeilles. Mais là, le dvash, c'est celui des, le miel, celui des dattes. Et donc, on mangera la datte. On n'aura pas besoin de refaire Boré Périaët, puisqu'on l'aura fait sur l'olive. Et ensuite, eh ben, on peut revenir au premier verset, au troisième, quatrième et cinquième mot. C'est-à-dire, Eretz Rita Useora, Geffen. Geffen, eh bien, c'est là que tu vas pouvoir boire ton premier verre de vin blanc. Et tu feras Boré Périaët à Geffen. Ensuite, il y a Tena, la figue. Tu n'as pas besoin de faire de bracha, tu as déjà fait. Et Rimon, pareil. Une fois qu'on aura mangé les sept fruits d'Israël, alors on va pouvoir être metaken, corriger la faute de Adam Harishon, comme le Rav Cherki vous l'a expliqué. Et donc, eh bien, on a le minhag de manger à ce moment-là des etrogim. Etrogim qui était, comme vous l'avez vu avec le Rav, qui était le fruit de Etz Hadaat ve Etz Hachaim. Là où Adam Harishon avait mangé pas comme il fallait, parce que pas au bon moment, eh bien, là, ça y est, on mange comme il faut. Et donc, on mange le etrog comme il faut. OK ? Alors, comment on le mange ? Ça peut être en confiture, ça peut être confit, comme vous savez le préparer. Une fois qu'on aura mangé le etrog, eh bien, on pourra boire la deuxième coupe, c'est-à-dire du vin blanc avec un petit peu de rouge. Parce qu'on va commencer, une fois qu'on a été metaken chet Adam Harishon, eh bien, on va commencer à pouvoir s'attaquer, j'ai envie de dire, au dinim. S'attaquer à Midat Hadin. D'accord ? À ce moment-là, commence la dégustation des autres fruits. Et les autres fruits, eh bien, vont être dégustés là aussi avec un ordre particulier. Parce que les autres fruits, eh bien, on va les répartir selon quatre catégories. La première catégorie, ce sont des fruits où il y a une écorce à l'extérieur et un noyau à l'intérieur. Comme par exemple l'avocat. L'avocat, il y a une écorce, tu ne peux pas croquer dedans, et il y a un noyau à l'intérieur. Eh bien, ces fruits-là représentent notre monde à nous, c'est-à-dire un monde où il y a une clipa à l'extérieur pour s'accrocher à Dieu, l'appel de la nature, et il y a également une clipa intérieure, c'est mon Yetzer Hara, qui m'empêche de m'attacher à Dieu. Et puis après, je vais passer, alors certains mangeront 10 fruits comme ça, pourquoi ? Pour aller et être métaknim les 10 sphirotes de ce monde-là. Ensuite, eh bien, on va passer à une autre étape. Une étape où on va manger des fruits qui ont une écorce à l'extérieur, mais pas de noyau à l'intérieur. Par exemple, c'est rare, autant pour moi, à l'inverse. Des fruits qui ont un noyau à l'intérieur, mais pas d'écorce à l'extérieur, comme par exemple la pêche. Ces fruits-là vont symboliser... Est-ce que j'ai le CDR par écrit ? Vous pouvez nous l'envoyer. Là, je ne l'ai pas sur moi, mais ça se trouve très facilement, je pense. Sinon, on essaiera de vous l'envoyer. Bekitsour, donc des fruits avec le noyau à l'intérieur, symbolisant le moment où j'ai réussi à me défaire des problèmes de ce monde, mais mon problème, c'est mon Yetzer. Mon problème, il n'est qu'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Et donc, par rapport à cela, je vais manger des fruits avec le noyau à l'intérieur. Pour corriger cela. Pareil, on a l'habitude, ceux qui peuvent, de manger 10 fruits comme ça. Et puis après, on va avoir les fruits qui ont une écorce à l'extérieur, mais pas de noyau à l'intérieur, comme une orange. Montrant que je n'ai plus de problème intérieur, ma seule problématique pour m'attacher à Dieu, c'est ce monde. Il y a un écran qui s'appelle la nature qui m'empêche de me rattacher à Dieu. Et puis arrive le moment où je peux manger eh bien, des fruits où tout se mange, comme la fraise par exemple, où tout se mange, car j'ai atteint un niveau où plus rien ne m'empêche de me rattacher à Dieu. Et là aussi, on essaiera de trouver, ceux qui veulent, 10 fruits à ce niveau-là. Bon, là, on est déjà sur du 40 fruits différents, plus les 7 d'Israël, plus les 3, on est déjà sur du 48 fruits. On est bien. On est bien. Il y en a qui vont même rajouter encore. Alors, Arbaïm, c'est le nombre de jours qu'on a besoin pour étudier, pour recevoir la Torah. Il y en a qui vont aller jusqu'à 50 pour aller jusqu'à Hamishim Sha'are Bina. Mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Bekitsour, une fois qu'on a mangé la première série de fruits, alors on boit la troisième coupe avec du blanc et un peu de rouge. Et c'est lorsqu'on va finir toutes les quatre sortes de fruits qu'on va pouvoir boire le quatrième verre où ça y est, maintenant je suis prêt à mériter ma vie. Je mérite tout ce que Dieu il m'a donné. Et donc, je bois la quatrième coupe, la coupe qui est complètement rouge, qui est totalement Midat Adin. Non, non. Non, après. Begitzur. Donc ça, c'est une fois qu'on a terminé. Une fois qu'on a terminé le seder, évidemment, on va faire Bracha Harona, Mein Shalosh, Alperotea, Alperigafna, Veakol. Alors, par rapport à votre question, à quoi ça sert de manger des fruits qui ne viennent pas d'Eretz Israël, d'abord, c'est sûr que c'est mieux de manger des fruits qui viennent d'Eretz Israël, et c'est sûr que c'est mieux de manger des fruits qui sont frais plutôt que des fruits secs. Mais on fait avec ce qu'on a. Malasot. Donc, je conseille évidemment d'acheter en priorité des fruits qui viennent d'Israël et frais. Ensuite, deuxième niveau, fruits d'Eretz Israël séchés. Troisième niveau, fruits d'Eretz Israël, fruits de Chutz La'aretz frais. Quatrième niveau, fruits de Chutz La'aretz séchés. C'est-à-dire, on fait avec ce qu'on a, on se débrouille, on fait au mieux. Bekitsour, ça c'est le seder que vont nous octroyer les Chachmei HaMekoubalim. Mais tout ceci nous amène dans l'histoire, comment faire dans le nord du quoi? Dans le nord du quoi? Du QC?
Du Québec.
C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est le QC. On n'a pas tous ces fruits. Quels fruits peuvent être remplacés? Mais on n'a pas besoin de remplacer. Ce que tu as, tu prends. Ce que tu n'as pas, tu ne prends pas. On ne se prend pas la tête. Il ne faut pas se prendre la tête. C'est une fête. On ne se prend pas la tête. Ah, du Québec. Tu sais, c'est Québec. Vous le saurez, les amis. Donc, dans le nord du Québec, tu fais des fruits en neige. Tu fais des sculptures en neige. Et tu manges des sculptures. Il faut que ça ressemble à une pêche. OK ? Malasot, que Akadosh Baruch Hu vous aide à ne plus être au Québec et qui vous aide à pouvoir revenir dans un pays où il y a des pêches. Bezrat Hashem. C'est-à-dire, mais tant que vous êtes au Québec, ben vous faites avec ce que vous avez. Malasot. Et s'il y a des fruits secs qui viennent d'Eretz Israël, Matov Manaim. Bekitsour, quand on revient dans l'histoire, eh bien, il va y avoir une nouvelle étape de Tu Bishvat. Cette nouvelle étape de Tu Bishvat, elle arrive à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y a, en 1887, un groupe de jeunes. Y a-t-il un fruit de l'arbre qui n'a ni pépins ou noyau et pas d'écorce? Est-ce qu'il y a un fruit de l'arbre? Ben évidemment, il y a un fruit de l'arbre qui n'a ni pépins, ni noyau, ni écorce. Pépins, ce n'est pas un noyau. Les pépins, ça peut se manger. Et après, tes parents, ils te disent, tu vas avoir un pommier qui va te pousser dans le ventre. À Kolbesed. Donc, les pépins, ce n'est pas un noyau. Donc, la pomme peut tout à fait remplir ce critère-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fruit qui peut être mangé en entier? J'ai une bonne question. De fruits de l'arbre. La poire, oui, voilà. Le raisin, évidemment. Ben, voilà, bon, qui tourne. Vous avez très bien répondu. Kolakam. Bekitsour, en 1887, il y a un groupe de jeunes dans le village de Yesod HaMa'ala qui vont, sans demander rien à personne, ils sont une dizaine, ils vont faire une action qui ne mange pas de pain, mais qui va être vue par un monsieur très influent. Et ce monsieur très influent, il va être subjugué par cela et il va dire, eh bien, dès l'année prochaine, je mets ça en forme à grande échelle. C'est quoi ça? Eh bien, en 1888, le Rav Dr Ze'ev Yahavetz va décréter le nouveau minhag que vous connaissez tous, de planter des arbres à Tou Bichvat. Nouveau minag, planter des arbres à Tou Bichvat. Alors, c'est très bizarre parce qu'au niveau botanique, c'est pas le moment de planter des arbres. Nahon, c'est pas le moment. Ubechol zot yesh eze kesher. C'est quoi le kesher? Eh bien, vous savez qu'il y avait un minag. Il y avait un minag à l'époque du Beth Amikdash que lorsqu'un bébé naissait, qu'il soit garçon ou fille, on plantait un arbre. On plantait un arbre. Pourquoi on plantait cet arbre? Parce que le jour venu, lorsque ce garçon et cette jeune fille se marieront, eh bien, on coupera des branches et des morceaux de cet arbre-là pour construire leur choupa. Il y a fait. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de choupa dans la salle de mariage d'ores et déjà prête. Donc, c'est un minag qui a fait meod. C'est un minag chez le chibour, chez l'achdout, chez la hava. Et quel rapport avec Tou Bichvat, me direz-vous? Eh bien, vous le savez, 40 jours avant la naissance de l'être humain, une voix sort du ciel et dit « celui-là pour celle-là, celle-là pour celui-là ». Eh bien, ce qui est vrai pour l'être humain est vrai également pour le monde. 40 jours avant la création du monde, eh bien, une voix est sortie du ciel et a dit « celle-là pour celui-là ». Le monde, c'est le Khatan, et nous, Knesset Israël, nous sommes la Kala. Et donc, c'est quand, 40 jours avant la création du monde, que la voix est sortie? Eh bien, le monde a été créé le 25 Adar. D'après Rabbi Yehoshua, l'homme a été créé le premier Nissan, et non pas le premier Tishrei. Et donc, 40 jours avant le 25 Adar, c'est bel et bien Tou Bichvat. Et donc, ce minhag de planter des arbres pour que le moment du mariage venu, on puisse faire une choupa, eh bien, n'est pas complètement absurde. Certes, ça ne marchera pas avec des arbres fruitiers, mais parce qu'ils ne tiennent pas si tu les plantes en hiver, mais les arbres, comme le halon, comme le pin, tous les conifères, ça passe. Donc, le minhag aujourd'hui est de planter des arbres à Tou Bichvat. Et il y a une dernière chose qui est arrivée à Tou Bichvat. Hein? Il y a une dernière... Non, mais... Attends, répète avec les chers. Annie. Ben, Charles. Bekitzo, la dernière chose qui est arrivée à Tou Bichvat, eh bien, c'est en 1949. En 1949, il s'est passé quelque chose. Alors, je ne sais pas si, quand le Rav Cherki vous a enseigné le livre de Horoth, est-ce qu'il a commencé par l'introduction, je pense que oui, du livre de Horoth. Eh bien, vous vous rappelez donc certainement ce qu'il vous a dit par rapport à la dernière phrase. La dernière phrase de l'introduction du Rav Tzvi Yehuda Kouk. Nous dit le Rav Tzvi Yehuda Kouk. Donc là. Bekitzur, nous dit le Rav Tzvi Yehuda Kouk la chose suivante, je lis cette dernière phrase. Mimekor mazra haor agadol. Et c'est là, j'ai n'importe quoi. Inenu chozer umofia, donc ce livre-là, le livre de Horoth, ata achshav bishnat haktoret, en 1949. Im reshit giluya shel romemut yemin elyon legeulat amo venachalato veishuat meshichut. C'est-à-dire que nous dit le Rav Tzvi Yehuda Kouk, l'année 1949, c'est le début du dévoilement de sa grande droite pour la geoula du peuple juif et la libération du Mashiach. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé en 1949? Tout le monde aurait dit 48, j'aurais compris. Pourquoi 49? Eh bien, les amis, tout simplement parce que 1949 n'est autre que l'année à la fin de la guerre où la Knesset est passée à Jérusalem. Et c'était le jour de Tou Bishvat. Et c'est pour ça que tous les ans, Tou Bishvat, c'est Yom HaKnesset. Et il y a une yeshiva chagigit à la Knesset. En d'autres termes, qu'est-ce que ça change que la Knesset soit à Tel Aviv ou à Jérusalem? Eh bien, si tu mets le Parlement israélien à Tel Aviv, tu es en train de dire que l'État d'Israël est un pays européen occidental au Moyen-Orient. Mais si tu dis que la capitale est à Jérusalem, alors tu dis que l'État d'Israël n'est autre que la succession, la suite, eh bien, de Malchut Beit David, que nous sommes en train de ramener à son poste pour reconstruire aussi la maison de Dieu, Bimera, Beyamenu. Amen. Chag, Tou Bishvat, Sameach, Lekulam. Il y a 5 minutes, si vous avez des questions, c'est malin. Est-ce qu'en Gola, on doit respecter les 3 ans de la Orla? Non, la Orla, c'est qu'en Eretz Israël.
Wow. Si vous avez des questions, vous pouvez allumer mon micro.
Oui, oui, non, non.
Les murs et les framboises, c'est considéré comme un être, Adama?
Les murs ou les framboises? D'abord, c'est quand la cavote, ça veut dire que chez toi,
il y en a.
Voilà, c'est Omer qu'il y a des murs et des framboises.
Ah oui.
Je connais des gens qui en font pousser dans leur serre.
Et en Israël.
On va dire que c'est un peu le bazar à cause de la guerre et qu'ils ont perdu une grande partie de leur récolte, mais oui, il y en a. Il n'y en aura pas à la vente, mais il y en a.
Il y a fait.
Ah, il y a gauche. Ben,
j'ai
acheté des framboises.
Voilà, et du côté aussi de Otef Aza, il y en a.
Baruch Hashem.
L'Adati qu'on peut faire quand on a du pétel.
Mais si, Arabe, mais si, il faut juste savoir le trouver.
Ok, mais je ne savais pas que c'était la saison de pétel.
On peut.
Quel bracha.
Voilà, quelle est la bracha, Arabe?
Adama, non, c'est comme les fraises, non?
Non. Bah, je ne sais pas, justement. Non. C'est censé être c'est censé vivre plusieurs années, les plants. C'est pas. C'est comme un arbuste, alors je ne sais pas.
C'est oui, comme un arbuste, mais c'est comme. Pardon?
Ça repart du pied, tu coupes les vieilles branches tous les 4 ou 5 ans.
Voilà, alors.
Mais c'est quand même considéré comme étant. L'or rav shnati, c'est-à-dire que c'est pas comme un arbre où les racines elles continuent et la pomme elle revient tous les ans, le bourgeon il revient et tout ça, donc c'est quand même beau repéré Adama.
D'accord, merci.
Comme le passiflora, comme la banane,
comme les fraises,
comme les fraises
qui sont genre la maison.
Oui,
il faut débloquer votre micro, c'est la maison.
La troisième coupe, on la boit quand exactement?
Après la deuxième.
Après avoir mangé les premiers fruits, la première série de fruits. Merci. Oui, monsieur.
Oui, Todara Kavodarav. Là, Kacha, je voudrais juste que vous m'aidiez à répondre à une question sur l'origine des 11 cripotes, quoi.
Des
11 cripotes. Pourquoi on a 11 cripotes?
Qui a parlé de 11 cripotes?
Non, c'est pas votre cours. Je dis si vous pouvez m'aider à répondre à une question concernant 11 cripotes. Voilà.
Alors, la question est un petit peu trop générale. Je vous propose de demander ça plus au Rav Yoel, mais pour vous aider là maintenant comme ça, c'est en rapport directement avec les 11 Toumot qu'il y a dans le livre de Vayikra.
D'accord.
Mais demandez plus au Rav Yoel, il rentrera dans les détails.
Merci beaucoup, Todara.
Ça, on a 11 éléments dans le Ketore.
Aussi, d'accord.
Oui, c'est pour Metaken ça, mais je voudrais savoir d'où l'origine des 11.
Tov, et bien, Chazak Baruch.
Todara, et Mazal Tov.
Mazal Tov.
Merci beaucoup d'être venu malgré tout.
Vous avez parlé du vin blanc, vous avez dit que ça représente le recette. Oui. Et le rouge, c'est quoi? C'est dîle, qu'est-ce que ça veut dire?
Dîle, c'est la rigueur.
La rigueur, merci.
Que votre fils soit un digne fils du fruit d'Israël.
Amen.